Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Enfants malades, qui ne tremblent pas à la seule évocation de ces mots, ceux qui ont des enfants prient le ciel que cela ne leur arrive pas, ceux qui n'en ont pas moins le cœur serré. Un enfant qui souffre représente pour beaucoup le scandale du mystère du mal par excellence, et on imagine par ricochet l'épreuve que cela représente pour ces petits. Ce matin, je vous propose de partir à la découverte de ce monde mal connu et inquiétant des enfants malades. Qui sont ces enfants malades? Que vivent-ils? Comment soutenir des proches concernés? Mais aussi, quelles leçons de vie nous donnent-ils? Car ces enfants malades sont aussi bien souvent des héros. Voilà, donc pour cette émission ce matin, Vivante Église, enfants malades, comment les accompagner? Je reçois Muriel de Rome. Vous êtes psychologue titulaire dans le service pédiatrie, réanimation infantile et rééducation neuro-respiratoire à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour, vous êtes par téléphone depuis Paris.
Bonjour, je me réjouis de ce moment avec vous.
Voilà, et vous êtes aussi l'auteur donc d'Accompagner l'enfant hospitalisé aux éditions de Boeck. Nous sommes aussi avec Gisèle Jucla, vous êtes l'ancienne présidente des Blues Roses. Bonjour.
Bonjour.
Avec Bénédicte de Vigry, vous êtes responsable de la délégation Haute-Garonne de l'association Rêve. On verra plus tard ce que c'est. Bonjour.
Bonjour.
Et Georges Landier, vous êtes le délégué diocésain de Lourdes Cancer Espérance et membre de la pastorale de la santé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, au début de cette émission, je voulais avec vous peut-être commencer par, non pas dresser un panorama de la situation des enfants malades, parce que ça serait pour le coup bien indélicat. Peut-être faut-il quand même essayer d'expliquer. On a l'impression que c'est une réalité marginale, parce que probablement tout à chacun ne souhaite pas que ça lui arrive. Néanmoins, des enfants malades, il y en a. J'avais noté qu'il y avait des chiffres de 2013, 2 millions d'enfants hospitalisés en France chaque année, 7300 qui sont hospitalisés à domicile et Muriel de Rome, 2500 enfants qui sont en fait atteints du cancer chaque année, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez en tête quelques chiffres qui peuvent nous aider à comprendre l'ampleur de cette réalité?
Non, je serais bien incapable de vous donner des chiffres. Mais en tout cas, c'est une réalité, on a la sensation que le cancer touche de plus en plus dans des situations auxquelles on ne s'attend pas, et ça va aussi avec la sensation qu'on en contrôle pas mal de choses actuellement, et donc la maladie de l'enfant reste le scandale par excellence, puisqu'on ne comprend pas comment on ne puisse pas les protéger de ça, mais rappelons quand même que la mortalité infantile a bien sûr baissé de façon extraordinaire. Donc, mais le cancer de l'enfant qui reste tenace, même si beaucoup vont guérir, reste une sorte de scandale à notre époque.
Gisèle Jucla ou Bénédicte de Vigry, c'est vrai qu'on on imagine que c'est une réalité marginale, néanmoins c'est une réalité qui existe. Est-ce que vous aussi voulez dire un mot peut-être dans cette introduction sur ces chiffres que je viens de citer?
Oui, alors moi aussi je suis pas capable de parler de chiffres, mais par contre il y a l'enfant malade, mais il y a l'enfant qui vit en consultation pour quelque chose de finalement assez bénin, et effectivement des services plus lourds. On parle beaucoup du cancer, mais il y a bien d'autres pathologies aussi qui sont très lourdes. Et comme le disait Madame Delorme, c'est un scandale, mais en même temps, il y a une prise en charge très efficace, je crois, pour accompagner l'enfant, que ce soit du personnel soignant, du personnel accompagnant, psychologue, et éducatif dans les hôpitaux. Donc heureusement qu'il y a ce côté positif qui va permettre d'aider les parents aussi.
On va le voir au fur et à mesure de l'émission, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce matin, entre autres donc l'association Rêve et les Blues Roses qui interviennent auprès entre autres de ces enfants malades. Peut-être avec vous Muriel de Rome, au début de cette émission, je voulais que vous nous aidiez peut-être à comprendre ce que vivent ces enfants, alors de l'intérieur d'une certaine manière. On imagine que pour tout à chacun, apprendre qu'on est gravement malade, atteint donc d'une maladie, je ne sais pas, rare, dégénérative ou d'un cancer, c'est déjà une grande épreuve pour un adulte. Pour un enfant, on imagine que c'est peut-être encore plus un cataclysme. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui êtes psychologue, de cette réalité? Comment ces enfants en fait apprennent ou prennent l'annonce de cette maladie?
Alors, pour faire un petit rappel historique, juste, en fait, vous savez que la prise en compte de la douleur physique de l'enfant est relativement nouvelle, hein, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on niait les douleurs physiques de l'enfant, puisqu'on a encore jusqu'à, disons, il y a 30 ans, on faisait des opérations sans anesthésie sur des enfants, ils hurlaient, mais sous le prétexte qu'ils n'allaient pas s'en souvenir, ça n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, tout ça, heureusement, on n'a plus du tout ce problème-là, et on lutte sans arrêt contre la douleur physique, mais il demeure que la douleur psychologique est encore trop mise à mal. Et beaucoup de parents et encore certains soignants pensent qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer à l'enfant la maladie ou les traitements ou ce qui se passe. Et ils le font généralement pour préserver l'enfant en disant il ne faut pas lui parler de la gravité de ce qui se passe parce que ce serait trop dur pour lui ou des choses comme ça. Et ça va faire exactement l'inverse. En fait, l'enfant perçoit exactement la tonalité de ce qui se joue, de ce qui se passe, mais il se retrouve très seul à devoir le vivre parce qu'on lui dit qu'il a un gros rhume ou qu'il a qu'il va rester un certain temps à l'hôpital sans forcément lui expliquer qu'il va perdre la marche dans le cas d'une maladie neuromusculaire. Vous voyez, on ne lui en parle pas tout de suite et ce temps entre le moment où on va lui expliquer réellement les choses et ce temps où lui les constate déjà et les vit, c'est un temps très difficile.
Donc vous dites la première chose c'est qu'il faut être vrai avec ses enfants. Alors après, une fois qu'on est vrai, vous qui êtes thérapeute, est-ce que vous savez comment ils prennent l'annonce de ces maladies?
En fait, ils se soucient surtout de leurs parents. C'est assez touchant parce que par exemple, j'accompagne aussi des enfants qui ont un accident, admettons, de plongeon et qui du jour au lendemain vont plus du tout pouvoir, plus jamais pouvoir remarcher, ou des maladies évolutives avec la perte progressive. En fait, ils me disent, je pense à un petit garçon qui me dit, je peux supporter une vie où je resterai tout le temps, toute ma vie paralysée. Mais je peux pas supporter de voir combien ça rend triste mes parents et la sensation de leur gâcher leur vie. Vous voyez, c'est le phénomène de regarder comme ça les parents et ce que ça leur fait vivre qui est insoutenable. Et du coup, ils vont bien souvent se mettre dans une position de soutenir leurs parents dans les cas de maladies très graves. Hein, dans les cas de petite hospitalisation, on va voir l'enfant beaucoup pleurer, beaucoup... donc là, on sera dans des situations autres. Mais quand ça devient très grave, on observe souvent que l'enfant va se mettre à beaucoup rire, à beaucoup mettre de dynamisme dans ce qu'il est en train de faire, etc. Mais dans un souci de rassurer l'adulte, finalement. Mmh. Et c'est une inversion des rôles qu'on observe.
Alors justement, vous introduisez mon autre question, peut-être pour finir cette première partie d'émission. Les parents, alors même question, vous qui êtes proche de toutes ces familles, comment les parents prennent ça? Alors évidemment, on imagine que c'est évidemment pas simple. Quelle est votre expérience en la matière? Le propos étant pas d'être voyeuriste, mais d'essayer de comprendre ce que vivent ces gens pour peut-être des gens qui sont concernés, qui ont des proches qui sont concernés pour les aider à comprendre ce qu'ils vivent.
Alors là, je pense que le terme de cataclysme, c'est vraiment le bon. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'effondre. Et tout le reste n'a plus d'importance. Hein. Et tout d'un coup, il y a toute une relecture de la vie qui se fait en se disant, mais finalement... combien de temps j'ai passé avec mon enfant à être réellement attentif à lui. Aussi une culpabilité, je vois ça surtout chez les mères, une recherche de mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas avoir été capable de le protéger de la maladie, vous voyez, même quand c'est quelque chose, une maladie non contagieuse, etc. Mais les parents, et beaucoup les mères, mais beaucoup de parents disent vraiment... mais qu'est-ce que j'ai fait, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ou qu'est-ce que j'ai pour mériter ça, voyez. Et donc, il va falloir, pour les proches de ces parents-là, surtout, il faut leur renvoyer une belle image de ce qu'ils sont en tant que parents. Parce que c'est vraiment une atteinte pour eux difficile, ils se croient soudain profondément mauvais parents. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. Et je crois que L'autre chose auquel il faut faire attention quand on se retrouve dans cette situation d'accompagner son enfant malade, surtout quand il s'agit d'un accompagnement sur du long terme, c'est d'être vraiment dans le... l'image que je donne souvent aux parents, c'est vous ne partez pas pour un sprint, vous partez pour une épreuve d'endurance. Si vous partez comme pour un sprint, vous n'allez plus pouvoir être attentif à votre enfant et ça va se retourner. Si vous voulez, la première réaction du parent, c'est je vais être là tout le temps, je vais tout faire pour mon enfant, je vais le gâter, je vais faire tout ce que je peux pour qu'il souffre pas, pour qu'il ait pas mal, pour faire rire, pour le... Vous voyez ? Et c'est une attention tout à fait louable, mais il y a à ce moment-là un épuisement du parent qui arrête toute sa vie et qui se centre uniquement sur l'enfant malade. Et on observe à ce moment-là un épuisement qui va, à un moment ou à un autre, se traduire par des difficultés de couple, un épuisement physique et psychologique, et donc une agressivité. Alors que si elle ne peut pas sortir contre une agressivité qui, en principe, est destinée à la maladie, et qui va se retourner contre les soignants, ou contre les proches, ou contre... vous voyez ? Donc ça, c'est toujours un peu difficile pour les proches de comprendre ça, mais c'est important aussi qu'ils puissent exprimer leur colère, même si c'est pas du tout sur le sujet, c'est déplacé, vous voyez, c'est sur un autre sujet que celui, que le vrai.
D'accord.
Et donc le prendre soin de soi du parent qui a un enfant malade est essentiel. Et nous, à l'hôpital de Garches, tous les mardis, on prend un temps comme ça de vraiment... pour apprendre aux mamans, aux papas à se ressourcer et aussi, je le rappelle sans cesse, d'être attentif à leurs autres enfants qui souvent passent à la trappe et pour qui c'est très difficile aussi.
D'accord, alors on fait une première pause musicale. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Accompagner l'enfant hospitalisé, handicapé, gravement malade ou en fin de vie, aux éditions de Boeck.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, cet orage avant l'été, cette chupine petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur. La virée de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins. Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la bouche. Ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur. Et tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science à quand se contre nos pensées. Si tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs. Faut que tu grèves de bonheur ou qu'il change de godasse, que tu croules sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante. Ah, ah, lève-toi, lève-toi.
Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin donc une émission Enfants malades, comment les accompagner. Pour cette émission, si vous nous prenez en cours de route, nous sommes avec Muriel Derome, psychologue, donc à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui est avec nous en ligne depuis Paris, auteur d'un ouvrage intitulé « Accompagner l'enfant hospitalisé » aux éditions de Boeck. Gisèle Jucla, qui est l'ancienne présidente des Blues Roses, Bénédicte Vigry, qui est responsable de la délégation Haute-Garonne de l'association Rêve, dont nous allons parler tout de suite, et Georges Landier, qui est délégué diocésain de Lourdes Cancer Espérance et membre de la pastorale de la santé du diocèse. Alors, pour aider, accompagner, soutenir tous ces enfants, leurs familles, leurs fratries, il y a évidemment du monde, il y a tout le personnel soignant, il faut évidemment le dire, et vous les représentez ce matin d'une certaine manière, Muriel Derome. Oui. Mais il y a aussi des associations, voilà, dont l'association Rêve. Alors, Bénédicte de Vigry, est-ce que vous pouvez nous dire l'association Rêve, qu'est-ce que c'est? Si j'ai bien compris, c'est une association qui propose aux enfants de réaliser un grand rêve pour les aider à, comment dire, à se projeter dans l'avenir de manière positive et à se battre.
Exactement, l'association Rêve s'adresse aux enfants qui sont très gravement malades, dont on ne connaît pas le pronostic vital qui est engagé. Et nous réalisons leurs propres rêves. Nous n'avons pas du tout de catalogue de rêves, c'est le rêve de l'enfant que nous réalisons. Et les rêves sont très très variés, c'est un certain nombre veulent aller au Disney, mais ça peut être rencontrer des vedettes, ça peut être sauter en parachute, faire de la pêche au gros, visiter New York, visiter le pays du Père Noël, c'est très très varié.
Alors le pays du Père Noël, comment vous faites? C'est
mais c'est aller en Laponie.
D'accord.
En Laponie pour rencontrer le Père Noël. Et alors, l'association Rêve est une association qui a 22 ans maintenant, dont le siège national se trouve à Trévoux, à Lyon, enfin au nord de Lyon, dans l'Ain. Et il y a 37 délégations et antennes qui sont réparties sur toute la France, qui sont gérées par 700 bénévoles. Et toutes ces délégations sont en relation directe avec le siège. Toutes nos demandes de rêve que nous rencontrons, enfin les enfants que nous rencontrons au sein de l'hôpital qui font une demande de rêve, toutes ces demandes sont remontées au siège qui, le fait de recevoir toutes les demandes de rêve aura plus de facilité pour contacter par exemple Christophe Mahé ou Mimi Mati ou pour gérer le rêve dans la mesure où tout sera centralisé au siège.
Donc, alors, je le précise aussi parce que si certains auditeurs seraient intéressés, en fait, on peut, comment dire, vous accepter les demandes urgentes aussi pour réaliser un rêve. J'ai vu ça sur votre site internet.
Tout à fait.
Et donc, vous précisez, donc, c'est des enfants âgés de 3 à 18 ans qui sont atteints de pathologies graves, dont le pronostic est réservé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler quelques-uns des rêves qui ont été réalisés ici en Haute-Garonne? Vous n'êtes peut-être pas obligé de donner le prénom et le nom de l'enfant, mais je voyais que la première réalisation de rêve de votre association, c'était en 1994 et c'était une petite Marjorie, je ne sais pas si elle était petite, qui a rencontré Patrick Bruel à Lyon. Alors donnez-nous d'autres exemples de rêves et puis ce que ça fait dans la vie d'un enfant et d'une famille que de pouvoir à un moment désirer et réaliser un rêve. Et
tout simplement, il y a deux jours, c'est Ninon qui a rencontré Louane au Zénith de Toulouse. Ça s'est merveilleusement bien passé et ça peut être un rêve tout simple. Il y a 3 semaines, c'est Lisa qui voulait fêter son anniversaire, elle est petite, 7 ans, 8 ans, et voulait réaliser son anniversaire en princesse et qui a donc été déguisée en reine des neiges. Et qui a, c'est donc un rêve tout simple. Et son grand-père avait dit, puisque tu tombes malade, je vais me laisser pousser la barbe et quand tu seras guéri, je te la couperai. Et le jour de son anniversaire, cette petite Lisa a coupé la barbe de son grand-père. C'est mignon comme...
C'est mignon et on imagine que ça l'a beaucoup encouragé, oui.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, au niveau de l'association Rêve, en 2016, nous réaliserons le 5000e rêve sur le plan national. Donc on en est à peu près 310 rêves par an. Donc c'est pas loin de 1 par jour qui peuvent se réaliser. Donc ça c'est important. Et le fait de réaliser son rêve...
Alors c'est la question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce que ça engendre, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans la vie de l'enfant malade et dans celle de la famille aussi.
Mais l'enfant déjà, il va chercher quel est le rêve qu'il veut faire. Si on se pose la question à nous qui sommes en bonne santé, quel est ton rêve aujourd'hui? On a
bonne
déjà
question.
Quelques difficultés
oui, oui.
à répondre.
Alors moi j'en ai quelques-uns, mais je ne dirais pas.
Et tandis que là, le rêve de l'enfant, donc il va le chercher, il va en discuter avec l'équipe médicale, il va en discuter avec ses parents, il va penser à autre chose, il va se projeter dans l'avenir. Et le fait de se projeter dans l'avenir, ça veut dire la guérison, ça veut dire vraiment penser à autre chose. Et ça, c'est quand même très très important, plutôt que de voir que des blouses blanches et de « est-ce que tu as mal, est-ce que tu n'as pas mal ?» dire « ben voilà, tu as pu réaliser ton rêve, tu vas pouvoir le réaliser. » Ninon, avec Louane, ben, elle a pensé pendant un certain temps à Louane. Maintenant, elle vit encore sur son nuage avec sa rencontre avec Louane, des photos, des... Et ça, c'est important.
Muriel Derome, est-ce que vous voulez réagir? Alors, les enfants croisent pas que des blouses blanches, ils croisent aussi des blouses roses, on en parlera tout de suite après. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être de cette association? Et puis j'aimerais peut-être très brièvement que vous nous parliez un tout petit peu quand même de ces enfants, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas en plateau là, et il faudrait pas qu'on imagine qu'ils font tous grise mine, bien au contraire. Si on regarde, vous avez une espèce de blog sur lequel on trouve des vidéos qui ont été réalisées dans votre service, donc à Garches, par France 5, et en fait on voit des enfants qui sont souvent extraordinairement courageux, voire parfois rayonnants, des enfants en tout cas.
Oui, c'est cette réalité qu'on touche au quotidien à l'hôpital de Garches, c'est que c'est vraiment des enfants, je vous dis, soit carrément entièrement paralysés, c'est-à-dire qu'ils n'ont que le visage hein, qui peut bouger, et ils font bouger leur fauteuil roulant avec leur bouche, et ils manient la souris avec leur bouche. L'intellect n'est pas du tout atteint, donc ils réfléchissent et ils pensent comme un enfant de leur âge. Et ce qui est toujours déconcertant pour l'adulte, c'est que comme ils ont le sourire, on s'imagine qu'ils n'ont pas réalisé ce qui se passe. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ils sont capables, et c'est vraiment ce que nous enseigne l'enfant, c'est qu'il est capable de passer sans arrêt du léger au grave et du grave au léger. Donc, ils vont avec moi aborder le sujet de leur propre mort d'une façon très directe. Là, je pense à un petit de 5 ans qui me dit « Bon, moi, j'aimerais bien qu'on parle de la mort, parce que la seule chose que je sais sur la mort, c'est ce qui est marqué dans le roman du renard, qui est le renard qui fait croire qu'il est mort pour que le charognard ne l'attrape pas. Mais je ne sais rien d'autre. Et en fait, si on pouvait parler de la mort, enfin plutôt de ma mort, parce que c'est ça qui m'intéresse. Alors on a beaucoup parlé de sa mort, de comment, qu'est-ce que c'était, etc.
Alors si ça ne vous embête pas, on abordera ces questions, toutes les questions graves que se posent les enfants à la fin, voilà, de façon à ne pas tout aborder en même temps. Dites-nous maintenant, Gisèle Jucla, les Blouses Roses. Alors, donc c'est l'autre association. Alors évidemment, vous n'êtes pas représentatif de l'ensemble des associations qui interviennent auprès des enfants malades. Vous me disiez, en préparant l'émission, Gisèle Jucla, que ne serait-ce que à Toulouse ou à l'hôpital Purpan, en fait, il y a à peu près 220 associations, c'est ça qui intervient.
Oui, sur le CHU en général, je crois qu'il y en a même plus maintenant.
Voilà, donc on imagine qu'il y en a beaucoup qui interviennent aussi auprès des enfants. En tout cas, nous, on en a sélectionné deux. On a déjà eu du mal à vous avoir, donc on est très content que vous soyez là.
On est très content d'être là aussi.
Voilà, donc les Blouses Roses. Alors, les Blouses Roses commencent à être assez connues aussi. Voilà,
c'est une association nationale hein, de 4800 membres à peu près, qui est née maintenant il y a plus de 70 ans. Qui est effectivement sur la plupart des départements. Et ici, moi, je suis l'ancienne présidente, donc je représente Vincent Plouzol, notre nouveau président, de l'association locale toulousaine, qui est l'association de Toulouse et Haute-Garonne.
Donc c'est une ancienne association, vous avez plus de 70 ans, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Vous êtes née en 1944, c'est une certaine Marguerite Perrin, c'est ça ? Qui voulait s'occuper des enfants tuberculeux
Qui au départ s'occupait pas spécialement des enfants, hein, parce que je crois que justement il faut dire que nous nous occupons, là on est venu pour parler de l'enfant, mais nous occupons aussi des personnes âgées et des adultes, et donc qui a créé cette association en vue justement de rompre la solitude des personnes qui étaient en sanatorium du côté de Grenoble.
D'accord, voilà. Et à partir de quel moment vous avez commencé à enfiler les blouses roses? Parce que j'imagine, elle avait peut-être pas...
Parce qu'au début en fait on a eu aussi des blouses blanches, on a eu des blouses roses claires, c'est justement pour mettre la différence. Nous ne sommes absolument pas les soignants, surtout pas, les soignants sont là pour soigner, nous sommes simplement là pour apporter une animation ludique ou créative, un peu d'évasion et rompre la solitude.
Alors qu'est-ce que vous faites du coup? Donc quand vous intervenez par exemple auprès des enfants malades, que font vos 4300 bénévoles aux quatre coins de la France?
Alors moi je vais surtout parler de Toulouse, hein, je ne suis pas la présidente nationale. Alors au niveau de Toulouse, nous avons 180 bénévoles, plus de la moitié s'occupe d'enfants sur trois sites. l'hôpital des enfants, le centre Paul Dautin, le centre Bousquerolles, qui sont des centres d'enfants handicapés. Donc, aller vers l'enfant, lui proposer une animation, c'est aussi bien jouer avec lui, lui raconter une histoire, lui prêter un livre, faire un atelier de loisirs créatifs, et ça peut se passer dans la salle d'attente des urgences, dans les consultations, au chevet de l'enfant, dans un service donc aux pathologies, n'importe où si vous voulez, où l'enfant est hospitalisé, où l'enfant est de passage. C'est venir par lui avec, j'allais dire, une certaine légèreté. Effectivement, nous n'allons pas, nous, aborder certaines questions avec l'enfant, car ce n'est pas notre rôle. Hein. Nous serions incapables d'ailleurs de le faire. Nous venons tout simplement lui offrir un moment de jeu, d'évasion, c'est-à-dire le recentrer en tant qu'enfant. Voilà. Après, nous sommes effectivement attentifs à ce qui va le contraindre. On va pas aller jouer à certains jeux avec un enfant qui est complètement immobilisé, mais à nous de nous adapter à cet enfant et surtout de respecter son souhait. Qu'as-tu envie de faire ? Voilà, moi je t'apporte une palette d'activités. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Voilà, et on est surpris. Enfin, moi je suis toujours admirative devant le courage et le sourire des enfants. Un enfant arrive aux urgences avec un bras cassé, de l'autre main, même de la main gauche alors qu'il est droitier, il va colorier et jouer avec vous. C'est toujours étonnant. Donc effectivement, tout à l'heure, je voudrais rebondir en disant qu'il ne faut pas mélanger ce que nous ressentons par rapport à la maladie de l'enfant, nos angoisses d'adulte aussi par rapport à notre vécu. Mais lui, ce qu'il vit, c'est sûrement différent. Alors, je ne suis pas habilité à en parler vraiment, mais ça, c'est quand même un point. Hein. Il faut prendre l'enfant tel qu'il est.
Voilà, en tout cas, les blouses roses, c'est vrai que, ne serait-ce qu'en se baladant sur votre site internet, ça fait sourire et ça donne de la joie. Entre autres, il y a une image assez rigolote où on voit donc une petite boîte de médicaments avec matin, midi, après-midi et soir. Il n'y a pas que les médicaments. À chaque fois, il y a une petite blouse rose, comme s'il fallait avaler cette petite blouse rose. C'est une association donc qui croit, puisque vous avez, je crois, plus de 40% de bénévoles ces 8 dernières années. Enfin, vous recrutez. Voilà, en tout cas, ça augmente. Muriel de Rome, ces associations pour faire face, bon, la réponse est dans la question, mais elles sont évidemment indispensables, mais qu'est-ce qu'elles apportent, quelle est leur vertu pour ceux peut-être qui auraient envie de s'engager dans ces associations?
Ce qu'elles apportent, c'est que ce qui est très important à comprendre chez l'enfant en général et chez l'enfant malade plus particulièrement, c'est que l'enfant n'a pas la même représentation du temps que l'adulte. Donc il a cette capacité au moment où il n'a plus mal ou un petit peu moins mal à se plonger dans un jeu, à rentrer dans un imaginaire, à être pleinement dans cet ailleurs qu'apporte l'histoire ou le jeu. Alors que nous, les adultes, on a beaucoup de mal, même quand on ne souffre plus, on pense qu'on va souffrir, on repense au fait qu'on a souffert, voyez. Et donc, les parents, eux, parfois, sont tellement meurtris par ce qui arrive ou par les perspectives du soin qui est douloureux qui va être là dans une heure ou par la tragédie que représente cette maladie qu'ils vont avoir du mal à rentrer dans un jeu. Et la personne extérieure qui vient comme la blouse blanche, comme la blouse rose.
La blouse blanche, c'est vous.
La blouse rose qui vient ouvrir l'enfant sur un dynamisme de vie. Ceci dit, bon, l'abscisse est intéressant parce que dans notre service, nous n'avons pas de blouse rose, mais nous avons, nous, soignants, créé une association pour améliorer la qualité de vie des enfants dans le service. Donc on est à la fois bénévoles et soignants.
Voilà. Est-ce qu'il y a des blouses roses pour les parents? Parce que c'était un peu ce que je voulais aborder dans la fin de cette deuxième partie, c'est essayer d'avoir peut-être une espèce de florilège de conseils clés que vous pouvez donner aux proches, aux familles, aux amis. Alors le premier, est-ce qu'il y a des associations blouse rose pour les familles? Comment les familles, elles, peuvent se changer les idées?
Alors,
se détendre.
C'est très difficile de citer, il y a beaucoup d'associations effectivement, mais je pense que quand, par exemple, les blouses roses vont souvent par deux, et quand elles rentrent dans une chambre au chevet d'un enfant, eh bien très souvent il y a un parent qui est présent, et très souvent le parent commence à accaparer un petit peu une des deux blouses roses pour lui parler, lui expliquer. Donc nous, notre seul rôle à ce moment-là, c'est d'écouter. Hein. Et je pense, comme vous disiez tout à l'heure, madame, c'est que les aidants sont souvent en grande détresse, hein, et ont besoin effectivement d'être entendus. Et heureusement que dans les services hospitaliers, il y a des personnes qui sont là aussi pour eux. Hein, ils peuvent faire appel à eux. Je pense que un enfant, pour être bien aidé par sa famille, il faut que l'aidant lui-même quelquefois soit aidé, parce que à long terme, ça peut être très très douloureux pour le parent. Alors, très épuisant.
Donc premier conseil qu'avait donné Muriel Dorome au début de l'émission, c'est qu'il faut se dire que c'est un marathon et pas un sprint. Ensuite, il faut savoir se faire aider. Vous, en préparant l'émission, Gisèle Jucla, vous disiez les amis qui sont proches de ce type de famille, c'est très important de pas changer de trottoir et de continuer à les appeler et de pas ou les regarder ou leur parler toujours avec une tête d'enterrement. Alors évidemment, ça va sans dire, mais en même temps, ça va mieux en le disant, comme on dit.
Oui, effectivement, moi j'ai été surprise d'entendre des parents me dire, mais j'ai plus d'amis. Et quand ils m'appellent, ils m'appellent pas et quand je les rencontre, ils me disent je savais pas quoi te dire. Moi, je crois que la premier conseil à donner à un membre d'une famille ou à des amis de parents qui ont un enfant malade, c'est de dire qu'ils peuvent simplement les appeler en disant bah écoute, je t'appelle, je ne sais pas quoi te dire, mais je suis là pour toi et je pense à toi. Déjà, c'est un grand pas. Si tu veux prendre un café ensemble,
et c'est pas gênant de rien dire.
Mais non, c'est pas gênant de rien dire. Je veux dire, nous on est dans l'écoute simple. Quand une personne âgée vous dit, vous savez, j'ai envie de mourir, on va pas lui dire, je vais vous donner des solutions. Ou non, ou oui, on écoute, c'est tout, on peut rien faire d'autre, nous ne sommes pas habilités à faire autre chose de toute façon. Mais là c'est pareil, l'enfant malade, c'est vrai qu'on est surpris quelquefois des réactions les parents aussi, vous disiez une certaine culpabilité et ne veulent pas, ils ont l'impression qu'il faut tout assumer, ils vivent comme un échec s'ils sont pas capables seuls de gérer cette détresse. Donc il y a quand même beaucoup d'accompagnants à l'hôpital qui sont là pour les aider.
Bénédicte de Vigry.
Oui, moi je crois que avec l'association Rêve, on essaye de proposer à l'enfant de se projeter dans l'avenir. Donc des parents qui changent de trottoir, qui disent je ne sais pas quoi dire, et donc les parents de l'enfant qui se sentent tout seuls, ce n'est pas normal. Il faut lui dire, mais c'est vrai, je pense très fort à toi. Et puis la vie continue, la vie des copains des enfants continue. Les parents de l'enfant malade ne veulent pas avoir un trou dans leur vie quand leur enfant sera guéri. Parce que le but, c'est d'abord que l'enfant va vivre. Il va lutter avec les médicaments et avec les traitements qui seront lourds, mais au final, c'est pour vivre.
Muriel Dorome, une réaction, et ne bougez pas trop votre téléphone parce qu'on entend tout à l'antenne.
D'accord.
Voilà, on vous écoute. Est-ce que vous avez un petit florilège de conseils à donner aux parents, aux amis, aux proches de ces familles?
Oui, je pense qu'on pense moins dans notre... dans notre pays, on pense moins à apporter à manger aux parents. En fait, c'est tout simple, mais c'est des parents qui n'ont plus le temps de faire de courses, plus le temps de faire de repas. Donc ça, c'est une petite chose qui permet justement de, quand on ne sait pas quoi dire, d'avoir un petit geste, de déposer quelque chose. Et puis, si la famille rentre trop tard, etc., elle peut congeler le plat. Et puis, le jour où elle a le temps de le manger, ben voilà, elle a une bonne soupe, une bonne salade, toutes ces choses-là vont aussi pouvoir marquer un petit geste d'attention auquel on pense pas forcément, mais qui sont tout simples. Et puis aussi, je trouve que de mettre en place un doodle, vous savez, la répartition des visites, va permettre que les visites tombent pas toutes le même jour, mais que chacun puisse s'inscrire. Et donc, on sait que quand on accompagne un parent, c'est aussi important de s'investir... de ne pas s'investir trop, parce que certains, au départ, sont très très présents, et puis après, elles n'arrivent plus à gérer leur propre vie, et du coup, vont laisser tomber leur ami qui a un enfant malade. Vous voyez ? Donc, ce qui est important, c'est de rester à plusieurs, d'être attentif à se relayer. Et plus on se le relaie, plus on tient dans le temps.
Alors, pour finir cette partie, est-ce qu'il y a d'autres associations clés à citer vers lesquelles peuvent se tourner en dehors de Rêve et des Blouses Roses, vous qui êtes dedans, j'ai envie de dire Muriel Dorome, est-ce que moi j'avais noté un certain nombre d'associations comme le Rire Médecin, Association Un Sourire d'Enfant, Arc-en-Ciel, on imagine qu'il y en a beaucoup, beaucoup, est-ce qu'il y en a quelques-unes à côté desquelles, en dehors des deux qui sont en plateau, il faut pas passer?
Non, ça je saurais pas trop vous dire parce que justement la spécificité de notre service fait qu'on a pas beaucoup de... Enfin, on a Rêve d'enfant justement dans notre service, mais je connais pas toutes les associations qui existent.
Gisèle Jucla, juste, vous pouvez dire un mot peut-être d'Hôpital Sourire?
Oui, alors je ne peux peut-être pas parler pour eux, mais en tous les cas, oui, c'est une association aussi très 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 percutante sur l'hôpital des enfants qui lève des fonds en fait pour aider l'hôpital. Hein. C'est un petit peu, c'était pas quelque chose, ils ne sont pas auprès de l'enfant dans l'animation, mais c'est différent. Donc effectivement, je pense que si on veut connaître, il suffit de s'adresser au CHU ou d'aller sur le site et vous avez toutes les associations, notamment de pathologies qui représentent certaines pathologies.
Toi, ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas.
je souffre en silence, mais moi je sais qu'un jour je finirai par avoir sa peau. Elle se calme et puis me relance à nouveau, mais moi je sais que j'aurai sa peau. C'est vrai, j'ai craché vers le ciel, je maudissais ce manque de veine, oui ce manque de peau. Viendra le jour où tout ce que je lui laisserai, ce sera la peau sur les os. Elle passe me voir à la nuit tombée. Quand je bois du noir, je lui dis, oh, va te jeter. Et d'être tombé là, d'être dans cette peau. Un peu comme le mistral qui souffle à l'année. Oui, ça fait froid dans le dos. Elle me joue des tours, il me mène en bateau. Ça fait boum 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 comme une pensée malsaine. Elle finit par bouger, non c'est pas trop tôt. Va te noyer dans la Seine. Elle passe me voir à la nuit tombée. Pour garder l'espoir, je lui dis, oh. Cette peur, ouais, qui attend son heure. Moi je lui dis, va te jeter. À ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. À ma douloureuse rengaine qui ne me lâche pas.
Radio Présence, Argelès-Gazos, 91.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce vendredi, donc une émission Enfants malades, comment les accompagner, donc pour nous aider à découvrir cette réalité. Et puis, si certains auditeurs ont des proches qui sont concernés, savoir peut-être comment ajuster son comportement au mieux. Nous sommes donc avec Muriel Dorome, qui est psychologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, auteur de « Accompagner l'enfant hospitalisé » aux éditions De Boeck. Gisèle Jucla, présidente des Blues Roses, enfin en tout cas ex-présidente pardon des Blues Roses à Toulouse. Bénédicte de Vicry, vous êtes responsable de la délégation Haute-Garonne, donc de l'association Rêve, on en a parlé précédemment, et Georges Landier, on va vous donner la parole, vous êtes le délégué diocésain de Lourdes Cancer Espérance. Alors, peut-être dans cette dernière partie d'émission, je voulais avec vous essayer de comprendre peut-être plus à l'intérieur encore ce que vivent ces enfants, et non pas pour être intrusif, mais peut-être aussi pour voir l'écho que ça peut trouver chez tout à chacun, et puis comprendre à quel point ces enfants nous donnent souvent une leçon de vie, et que ces situations mystérieusement peuvent aussi porter du fruit. Muriel Dorome, la première question que je voulais vous poser, c'est: est-ce que les enfants, quand ils apprennent qu'ils sont malades, se posent comme on l'a compris un petit peu pour les parents, de manière aiguë, la question du sens de la vie?
Je pense qu'en fait, c'est, vous voyez, dans le sens de la vie,
Alors, on vous entend pas très bien, donc...
Oui, vous m'entendez bien?
Oui, ça saute pas mal, allez-y, recommencez, et puis sinon on vous rappellera. Voilà, alors... On va vous rappeler, et puis en attendant, je vais poser la question peut-être à l'un ou à l'autre. Georges Landier, peut-être donc vous, Lourdes Cancer Espérance, j'ai envie de dire même question, la question du sens de la vie, quand on apprend qu'on a un cancer, alors on imagine que les enfants, est-ce que les enfants c'est pareil? Est-ce que le cataclysme, la conséquence, c'est que ça repose la question, ça pose des questions en fait fondamentales qu'on se posait peut-être pas forcément avant?
Ben, je pense que les enfants, dans tout ce que je viens d'entendre dire, c'est un peu la réaction. C'est les enfants qui veulent justement rassurer leurs parents. Et de ce fait, nous, quand on les accueille, on essaie justement de leur faire vivre les moments où on les accueille en pèlerinage pour... soit ce sont des enfants qui ont des parents qui sont malades, soit ce sont des enfants qui sont malades et les parents les accompagnent. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas cette question du sens, savoir ce qu'ils se projettent pas pour savoir comment va être leur vie plus tard. Ils le vivent à l'instant. Voilà, ils vivent à l'instant. Donc on essaie, à la mesure du possible, justement, de les accompagner pour leur faire oublier. Le temps qu'on les a, 4 ou 5 jours, le faire oublier cette maladie en les occupant, en les accompagnant. Enfin.
Alors vous les accompagnez quand même pas n'importe où, puisque Lourdes Cancer Espérance, c'est un pèlerinage à Lourdes. Donc on imagine qu'aussi peut-être vous accompagnez quand même cette maladie en essayant de donner un sens, ou enfin il y a un accompagnement spirituel. Alors en quoi consiste-t-il et qu'est-ce que vous dites à ces enfants?
Comment vous... Alors il y a le côté spirituel évidemment, mais on a un médecin pédiatre, on a la présidente, la responsable des jeunes qui est une infirmière qui s'occupait d'oncologie des enfants, et il y a un prêtre évidemment, et puis il y a les jeunes qui ne sont pas, il y a des jeunes, des ados, qui prennent en charge des enfants qui sont malades. Donc il y a toujours un référent jeune avec un jeune, mais quand même sous le pédiatre, c'est la responsabilité du pédiatre, des animateurs, on essaie à tout prix de les sortir de ce cercle d'hôpital, maladie, etc. Tout en veillant quand même à ce que, bon, ça soit, que leur traitement continue, évidemment.
Alors, Lourdes Cancer Espérance, il faut peut-être en dire un mot. Donc, c'est une association nationale qui accompagne donc les malades et leurs familles.
Voilà.
Et on va dire le grand rassemblement annuel, c'est donc un pèlerinage à Lourdes.
Oui, au mois de septembre, la troisième semaine de septembre. Et les familles peuvent s'inscrire auprès du délégué, en l'occurrence pour la Haute-Garonne et l'Ariège, c'est moi. Et donc, on les suit. Si vous voulez, faut pas penser que...
Alors, c'est pas que un pèlerinage, c'est-à-dire qu'il y a un suivi au long de l'année.
Et
des délégations partout dans les départements.
Voilà. Donc, c'est vrai que sur la région toulousaine, pour l'instant, on n'a pas de familles qui s'investissent ou qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être, je sais pas moi, à savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que... Bon, effectivement, le rôle des blouses roses, c'est formidable. Mais peut-être nous, on est peut-être complémentaires dans un autre côté. Il ne faut pas croire que nous sommes qu'église.
Voilà, là, on a bien compris. Hein. Donc, Muriel de Rome, si les enfants ne se posent pas la question du sens, c'est-à-dire qu'ils ne le verbalisent pas comme ça, est-ce qu'avec vous, alors vous me direz, vous confessez pas les enfants, hein, vous êtes psychologue, est-ce qu'ils vous le confient quand ils ne le confient pas à leurs proches?
Ils parlent beaucoup, si vous voulez, quand on parle du sens de la vie, on a tendance à tout englober. Mais eux, plutôt, ils cherchent... leur question, ce sera plutôt comment aider les autres enfants hospitalisés, comment aider les soignants, comment aider les parents, voyez. Et je crois qu'une façon de les aider, c'est de les aider, de les laisser nous apporter quelque chose. Vous voyez, quand vous allez voir un enfant ou une personne adulte malade, quand c'est elle qui peut vous apporter, c'est aussi très positif. Donc parfois on peut se laisser, alors c'est pas à l'enfant de prendre en charge l'adulte, c'est pas ça que je veux dire, mais quand on se met à regarder le monde avec les yeux des enfants, c'est un côté assez fabuleux, puisque rien n'est réduit à toujours ou jamais, ou vous voyez. Et donc même quand ils savent que ils vont par une issue peut-être pas toujours la guérison, hein, et ben ils... Ce qui compte pour eux, c'est d'arriver à trouver des gens avec qui en parler. Et pas systématiquement des gens qui leur disent « Mais arrête, ne pense pas à ça, ne dis pas des choses comme ça, mais c'est pas vrai, tu vas guérir, etc. » Pour certains, il est fort probable qu'ils guérissent, mais ils expriment le besoin d'évoquer la mort à un moment.
Alors j'allais vous poser la question justement, est-ce qu'il pose des questions autour de la mort, et si oui, quel type de questions possibles?
Je vous parlais tout à l'heure de ce petit garçon qui voulait savoir qu'est-ce que c'était la mort, et donc on avait parlé avec lui de sa propre mort. Ensuite il a voulu parler de sa mort avec ses parents, parce que souvent les parents, pour eux c'est impensable d'envisager la mort, et encore moins d'en parler avec leur enfant. Et pourtant, les demandes des enfants, c'est de pouvoir en parler. Alors bien sûr, quand la mort est une certitude parce que l'enfant est condamné, si vous voulez, il y a un enfant qui me disait, mais c'est vraiment cruel de refuser, quand les parents refusent de parler de la mort avec leur enfant qui va mourir, parce que ça veut dire que l'enfant qui va mourir ne peut pas être en vérité.
C'est un enfant qui disait ça ?
Oui, vous voyez. Et donc on ne peut pas être en vérité l'un avec l'autre. Alors qu'au moment où les parents parlent de la mort, ce jeune avait 13 ans et il demandait à ses parents, mais alors après ma mort, comment ça va se passer? Est-ce que qui va prendre ma chambre? Comment vous allez faire pour mon argent de poche? J'aimerais bien qu'il serve à une association, etc. Tous les sujets étaient abordés de façon très libre. C'était pas toujours facile pour les parents. Mais il disait, le fait qu'on puisse aborder ces sujets-là en vérité, il dit on est en vérité et donc plus joyeux. Vous voyez, ça m'a beaucoup marqué cette parole, on est plus joyeux.
Alors, Bénédicte de Vigry, vous vouliez dire un mot, quand je vous posais la question de la mort, enfin les questions que peuvent se poser les enfants, pardon, autour de la mort dans ce type de situation ou d'épreuve, vous disiez, eux, ils ont envie de vivre, donc souvent, alors peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas psychologue, mais en tout cas, le contact que vous avez avec eux, c'est que d'abord, ils disent leur envie de vivre et de guérir.
Voilà. Ils ont envie de vivre leur passion, leur rêve avec leurs parents. Parce que bon, c'est une bouffée d'oxygène pour eux, pour leurs parents, pour toute la fratrie. C'est un moment fort qu'ils aiment partager.
Mais parler de la mort ne veut pas dire qu'on veut mourir.
Bien sûr, oui, oui.
Vous voyez ? Et justement, plus on peut en parler et plus on est dans la vie.
Alors, Georges Landy, peut-être pour finir, et on est quand même sûr, enfin, on est quand même, ça veut pas dire du tout que tout ce qu'on a dit n'a rien à voir avec la foi chrétienne, loin de là, hein, évidemment. La foi chrétienne se résume pas à confesser le credo. Mais vous, à l'Ordre Cancer Espérance, donc, vous, il y a une dimension spirituelle importante. Comment vous accompagnez les familles ou les enfants dans cette réalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous les aidez aussi parfois à faire face à la maladie en s'appuyant sur Dieu? Et si oui, comment?
Mais disons que le prêtre accompagnateur permet justement aux enfants de vivre ce côté, si on peut dire, spirituel. Il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que... Mais leur faire participer au pèlerinage en tant qu'enfant. Sans que ça soit, sans s'apitoyer, dire, bon, le pauvre ci, le pauvre là. Non, ils participent, on leur permet d'animer une célébration, une veillée d'amitié, et les enfants préparent tout ça tout au long des 4 jours. Donc, il y a des moments d'échange avec le prêtre, forcément, l'évêque qui vient leur rendre visite, les parents qui peuvent librement venir accompagner, prendre les enfants, les ramener, etc. Donc, ils sont pas mis à part. Mais en parallèle, ils préparent leur pèlerinage et ils assistent. Et en tant que jeunes responsables, ils font les animations avec les animateurs. C'est bien conçu pour que justement, ces 4 jours où eux-mêmes, ils font quelque chose pour le pèlerinage.
Muriel de Rome, alors ils se tournent pas vers vous pour ce type de demande, mais on imagine que quand on est soignant, il faut quand même être ouvert aussi à ce type de demande, non?
Oui, en tout cas, la soif spirituelle est très forte chez les enfants, et c'est important d'y répondre, et bien sûr d'accompagner chacun, quelle que soit sa religion, mais ils ont besoin de d'être soutenus en fonction de là où ils en sont, Et je termine juste sur ce petit garçon dont je vous parlais. Il me disait, quand je suis tout seul, je parle à Dieu. Et je sais qu'il est là, mais je le dis surtout pas à mes parents parce qu'ils croient pas en Dieu. Vous voyez ? Donc, cette présence de Dieu auprès de l'enfant qui souffre, elle est très belle aussi, de sentir, les musulmans appellent Dieu le compatissant. Je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans ce terme-là, d'une présence d'un Dieu qui se fait aimant au cœur de la souffrance.
Alors, peut-être, pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire, Muriel de Rome, c'est, je crois, ce que vous dites en conclusion, même je crois pas, j'en suis sûr, puisque j'en ai lu une partie, de votre ouvrage Accompagner l'enfant hospitalisé, vous leur rendez hommage et vous leur dites tout ce qu'ils vous ont apporté. Peut-être pour finir, puisque c'était aussi la conclusion de mon introduction, quand je dis parfois ces enfants, ce sont des héros qui nous donnent de vraies leçons de vie.
Oui, c'est-à-dire que leur capacité à regarder la vie, à la savourer, à être pleinement attentif au présent, vient modifier quelque chose dans ma propre vie. Et je voulais donner la parole à ce petit garçon dont je vous parlais. Il me dit, bon, j'ai bien compris qu'est-ce que c'est la mort, mais en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est la vie. Voyez. Et en fait, avec ces questions de l'enfant, on est nous-mêmes à s'interroger sur notre propre vie, sur nos priorités, sur notre façon de surmonter nos propres épreuves. Et ça nous donne une force incroyable parce qu'ils sont dans une attitude qui est toujours à trouver un chemin de vie là où on croit que plus rien n'est possible. Et quelque part, ce sont eux qui nous révèlent la présence de Dieu.
Eh ben, merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous parler donc des enfants malades. Voilà, attention, l'émission n'est pas finie, Gisèle Juclin. Donc l'association Les Blouses Roses Rêve, voilà, vous pouvez trouver tout ça sur internet. Merci beaucoup et Lourdes Cancer Espérance. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.